Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle saison d'Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de l'UM, l'Université de Montpellier et de ses partenaires. 75, c'est le nombre de médailles, dont 19 en or, récoltées par les 230 para-athlètes français lors des Jeux paralympiques qui se sont achevés le 8 septembre dernier. 8, comme notre place dans le classement de cette compétition. Un retour dans le top 10 que la France n'avait pas connu depuis les Jeux de Sydney en l'an 2000. 14e place à Tokyo en 2020, 12e à Rio en 2016 et 16e place à Londres en 2012. Loin, très loin donc de notre record vieux de 40 ans maintenant, une 4e place à Barcelone en 92 avec 36 médailles d'or sur un total de 106 quand même. Alors peut-on expliquer ce retour en grâce autrement que par la ferveur du public français, effectivement au rendez-vous ? Et au-delà des enjeux de visibilité, quels sont les facteurs finalement d'amélioration de la performance des parasportifs ? Comment la préparation sportive et l'environnement autour de cette préparation peut-elle améliorer ses performances ? Quels sont les leviers d'action à proposer aux acteurs du monde paralympique, qu'il s'agisse des sportifs eux-mêmes, de leur famille ou de leur staff ? Voici quelques-unes des questions auxquelles veut répondre un rapport intitulé « Paraperf, optimisation de la performance paralympique, de l'identification à l'obtention de médailles ». Ce rapport, il a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet lancé en 2020 en vue justement de ces Jeux paralympiques qui viennent de s'achever, ce qui est déjà en soi un premier élément pour expliquer peut-être notre retour dans le top 10. Donc il est le fruit d'une collaboration entre de nombreux partenaires, dont deux fédérations sportives, la Fédération française handisport et la Fédération française de tir, et plus de 13 unités de recherche y ont participé, parmi lesquelles le laboratoire montpelliérain Synthésie pour santé, éducation et situation de handicap. Donc on est en plein dedans. On en parle avec nos deux invités aujourd'hui en studio, Yann Beldame et Rémi Richard, bonjour.
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 Bienvenue dans Allume la science. Donc vous êtes tous les deux sociologues à Synthésie. Vous avez participé à l'élaboration de ce rapport qui a mobilisé donc trois approches, de la sociologie, de la psychologie et une approche juridique. Donc vous avez tous les deux travaillé plus sur l'approche sociologique qualitative. Et c'est de ça qu'on va parler pendant les 20 prochaines minutes avec vous. Elle est le petit truc en plus de cette émission à mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En deuxième partie d'émission, nous vous emmènerons sur le site du CNRS, route de Mende, bâtiment Ballard, où Lorenzo Steviano de l'Institut Charles Guérard nous fera découvrir la salle de test des batteries. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors pour commencer, on va un peu resituer le travail que vous avez réalisé donc dans la méthode. Deux questionnaires ont été distribués, donc ça c'est plutôt pour la méthode quantitative. Le premier à destination des parasportifs. Vous savez comment ils ont été sélectionnés, les parasportifs
Alors,
Rémi Richard
Oui, merci. Alors peut-être pour resituer un peu quand même le projet, puisque en fait, ce rapport, il est issu d'un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Et donc, ce projet Paraperf est porté par Jean-François Toussaint. Et dans ce projet Paraperf, il y a trois lots de travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous, on est sur le troisième lot de travail qui est sur les environnements, comme vous l'avez dit, sociaux, juridiques et psychologiques. Et donc, à l'intérieur de ce lot de travail, il y a des juristes, des psychologues, des sociologues. Et donc, on va plutôt parler de la partie sociologie. Il y a eu du qualitatif, du quantitatif, et puis il faut aussi associer la thèse de Valentine Duquesne, qui a participé à la récolte de ces questionnaires, justement, et qui est financée, dans le cadre de sa thèse, par le comité paralympique français. Et donc, en fait, ces sportifs, ces parasportifs, ils ont été interrogés. Vous savez qu'il y a eu le Covid, on voulait interroger ceux qui ont participé aux Jeux de Tokyo. Finalement, les Jeux ont été repoussés. Donc, on a interrogé les pré-sélectionnés d'une certaine manière aux Jeux aux Jeux de Tokyo. Et on a aussi fait ces entretiens auprès des sportifs qui étaient pressentis pour aller aux Jeux de Tokyo.
Donc c'est ça, des questionnaires, des entretiens, 57 exactement entretiens. Et combien donc de questionnaires ? Une centaine, je crois, c'est ça ?
Oui, même un peu plus. Même un 126, je ne veux pas dire de bêtises. Mais...
Alors comment ça s'est passé justement, ces entretiens, Yann Beldam ?
Oui, alors ces entretiens, ils se sont passés de façon... pas très académique, disons, au départ, puisqu'on a fait, comme l'a dit Rémi, c'était en période de Covid. Au départ, on a eu la chance quand même de pouvoir faire des entretiens de visu in situ avec les sportifs, avec les membres de leur staff aussi. Mais comme il y a eu des périodes de confinement à ce moment-là, on a aussi dû innover. Et donc, on a fait des entretiens via Zoom, la plateforme, pour pouvoir réaliser notre enquête. Sinon, sans quoi, on n'aurait pas pu la faire. Et alors, c'est vrai qu'on était assez réticents au départ, puisqu'on n'avait jamais travaillé de cette façon. Et en même temps, il n'y avait pas que des aspects négatifs à le faire, puisque ça permettait aussi à certains le fait qu'il y ait cette distance, disons, à travers l'écran, permettait à certains de délier des langues parfois. Donc il y avait une forme ils ont pu nous dire des choses qui seraient restées sinon enfouies, je pense. Donc voilà, c'était assez intéressant finalement comme expérience. Et d'ailleurs, il y a peut-être projet d'en faire d'aller un peu plus loin, d'en faire un article scientifique, parce que c'était innovant comme façon de faire.
Alors, qui dit performance dit entraînement, et ce qui demande donc de la disponibilité pour s'entraîner. Dans ce rapport, vous pointez plusieurs difficultés qui sont la disponibilité des infrastructures, des entraîneurs, et aussi, comme pour les sportifs valides, l'action du financement, est-ce qu'on travaille à côté ou pas. Globalement, c'est quoi la situation des parasportifs par rapport à cette disponibilité, Yann Beldam?
Oui, alors... Déjà, peut-être resituer, dire que moi, je me suis occupé principalement de l'aspect qualitatif en sociologie, même si j'ai pu participer aussi, puisqu'il y a eu un rapport commun et qu'il y a eu des interactions avec les autres chercheurs de ce lot de travail. Mais effectivement, quand on parle de disponibilité, moi, j'en ai beaucoup parlé dans mon rapport qualitatif. La disponibilité, je l'ai conçue comme un des quatre grands déterminants de la performance paralympique. Et cette disponibilité, on l'a déclinée en plusieurs disponibilités.
Peut-être vous pouvez nous rappeler les quatre grands déterminants.
Alors, les quatre grands déterminants, effectivement. Donc les disponibilités, on a parlé aussi de l'expertise à la fois des staffs, bien sûr, mais aussi des sportifs paralympiques eux-mêmes. La troisième grand déterminant, c'est les sociabilités, donc les types de relations qui peuvent exister au sein des configurations paralympiques. Par configuration paralympique, on désignait en fait un sportif avec l'ensemble des personnes qui l'entourent pour sa préparation et pour les jeux.
On va parler des entraîneurs notamment.
Voilà. Et le quatrième grand déterminant qu'on a identifié, c'est les concurrences, c'est-à-dire l'état de la concurrence au niveau international, mais pas que, aussi la façon dont les athlètes sont qualifiés, sont classifiés, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est ces quatre grands déterminants qui sont en interaction, qui sont pas isolés les uns des autres, qui peuvent interagir entre eux pour produire cette performance paralympique. Et donc on les a conçus comme effectivement des déterminants sociaux, donc qui sont qui disent sociaux, mais sont déterminés aussi, sont construits socialement et donc qui sont déterminés aussi par les politiques publiques. Par le financement, mais aussi par les représentations qu'on peut se faire du handicap et de ces sportifs. Voilà. Donc, pour revenir aux disponibilités, ce premier grand déterminant sur lequel vous m'avez interrogé, on l'a décliné en plusieurs types. D'abord, les disponibilités, la disponibilité spatio-temporelle, on l'a appelée comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir du temps, tout simplement. Une des premières, notre premier élément qui saute aux yeux, c'est qu'il faut avoir du temps pour s'entraîner, pour se préparer.
Le rapport parle d'une moyenne d'à peu près 17 heures d'entraînement par semaine. C'est très hétérogène, c'est ça ? C'est que tout le monde ne fait pas ça.
Tout à fait.
Oui. C'est effectivement très très hétérogène et puis c'est déterminé par plein de facteurs. Est-ce qu'il y a un sponsor, est-ce qu'il y a des contrats d'accompagnement, etc. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les sportifs les plus performants, on se rend compte que c'est ceux qui ont effectivement un financement, mais qui sont en situation d'emploi, mais surtout dans une situation d'emploi qui permet d'avoir de la souplesse, qui permet de l'avoir d'aménagement. Et ça, c'est déterminant.
Bien sûr. Et quand on parle de disponibilité, on parle pas simplement non plus de la disponibilité des sportifs pour qu'ils puissent s'entraîner, qu'ils aient le temps de s'entraîner, mais aussi la disponibilité des staffs et des entraîneurs aussi. Parce qu'on parle pas beaucoup aussi des entraîneurs, mais les entraîneurs, eux aussi, ont besoin de se dégager du temps. La plupart ne sont travaillent à côté, certains, et donc ils ont besoin eux aussi de pouvoir avoir des dispositifs, rentrer dans des dispositifs, par exemple, d'accompagnement pour pouvoir être disponibles pour leurs athlètes.
Alors je reviens sur ce que vous avez dit, Rémi Richard, sur la disponibilité par rapport à l'emploi. Il y a des dispositifs qui existent pour aménager le temps des parasportifs, les conventions d'insertion professionnelle ou des conventions d'aménagement d'emploi. Et il semblerait qu'il y ait une forme d'inégalité qui a été dénoncée par certains parasportifs à la question de cette disponibilité, justement. Pourquoi est-ce que tous n'ont pas accès de la même façon à ces aménagements par rapport à l'emploi ?
Alors, il y a plein de raisons pour ça. C'est peut-être Yann qui a le plus travaillé sur justement l'accès à ces différents dispositifs, mais vas-y Yann, je te laisse peut-être la parole là-dessus.
Oui, alors ça dépend de quoi on parle en réalité. C'est vrai que les CIP, les CAE, etc. C'est des dispositifs qui permettent donc à ces sportifs qui sont en emploi par ailleurs de signer donc des conventions avec leur entreprise pour pouvoir se dégager du temps pour aller faire les compétitions, aller s'entraîner, et donc tout en continuant à être payé. Ça, c'est une façon de financer sa préparation paralympique. Il y en a plein d'autres. Il y a aussi les sponsors. Il y a des contrats d'image aussi. Il y a toute une variété finalement de sources de financement. Nous, on a travaillé dans un article qui est paru dans Communication and Sport, dans une revue américaine, sur les liens qu'il pouvait y avoir entre les représentations qu'on se faisait du handicap et de ces sportifs paralympiques et leur accès aux sponsors. Et ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est que il y a des représentations, vous savez, les sportifs paralympiques aujourd'hui, on a tendance à se les représenter, ça a été montré dans d'autres enquêtes, comme ce qu'on appelle des super creeps, hein, des sortes de super-héros qui auraient dépassé leur handicap dans une forme
des hommes augmentés, un petit peu.
Alors, il y a les cyborgs aussi, ouais. Effectivement, il y a cette figure du cyborg et il y a cette figure du super creep qui sont pas exactement les mêmes, mais en tout cas, dans les deux cas, l'idée c'est que, ils sont héroïques et, ils sont inspirants, en fait.
Et indépendamment de leur performance sportive, du coup ?
Alors, pas indépendamment, mais en tout cas, parfois, oui, ça peut être indépendamment, c'est-à-dire qu'on a tendance à avoir une vision, disons, un peu populiste, en fait, de ces sportifs, en pensant qu'ils sont merveilleux, ils nous inspirent, ils sont inspirants, etc. Mais en fait, le problème qui a été posé, la critique qu'on a pu faire à ce type de représentation, et en particulier cette critique, elle n'émane pas de chercheurs, elle émane des sportifs eux-mêmes, en fait, qui ont considéré, et puis des personnes en situation de handicap, ont considéré que ce type de représentation posait un problème, puisque elles considéraient que finalement, seuls ces êtres extraordinaires, finalement, pouvaient être reconnus. En réalité, ça pose le problème de la reconnaissance de ces personnes en situation de handicap, puisque finalement, certains ne pourront jamais atteindre de tels exploits, entre guillemets, hein, ces personnes en situation de handicap. Donc, ça pose le problème du validisme, finalement, hein, voilà. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, ces sportifs qui avaient ce profil, entre guillemets, super creep, qui étaient le plus financés, en fait. Et on a le cas de sportifs paralympiques qui sont dans des disciplines avec moins de visibilité, où il y a plus un handicap plus lourd et qui n'étaient jamais financés. Et là, pour le coup, ça posait le problème, en fait, effectivement, de ces inégalités de financement, finalement.
Quand on lit le rapport, on découvre des chiffres qui peuvent nous étonner, notamment quand on s'intéresse au levier de la performance. Seuls 7% des parasportifs sont accompagnés sur le plan nutritionnel. Est-ce que dans vos entretiens, vous avez un peu discuté de ça avec eux?
Alors, on leur a posé la question, puisque effectivement, excusez-moi, le rapport, enfin les enquêtes quantitatives et qualitatives sont liées, donc on a posé les mêmes questions pour avoir les deux versants. Et effectivement, dans ceux qu'on a interrogés, assez peu posaient la question du suivi, enfin disaient avoir un suivi nutritionnel. Par contre, la question des problèmes de gestion de la nutrition apparaissait quand même. Donc effectivement, ce qu'on constate, mais c'est pas forcément spécifique au parasport, on retrouve ça aussi dans le sport dit, entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, valide, c'est que les sportifs ont tendance à hiérarchiser en fait les facteurs de performance, et ceux qui passent à la trappe, c'est peut-être parfois le suivi nutritionnel, la préparation mentale aussi, qui est pas énormément
aussi, ouais.
Voilà, qui est pas énormément
16% d'entre eux bénéficient d'un préparateur mental, c'est ça, ouais, c'est...
tout à fait. Et ça peut être lié à des représentations aussi. On a quelques hypothèses, il y a des choses qui seront venues avec cette idée que la préparation mentale, finalement, c'est des gens peut-être un peu faibles qui en ont besoin. Hein. C'est très lié à une vision très pathologisante de ça.
Il y a des témoignages d'entraîneurs qui disent non, mais ils sont costauds.
Sont costauds. Et puis on est dans la Yann évoquait les figures un peu super creep, c'est la résilience. Donc on est fort, on n'a pas besoin de préparation mentale. Et puis il y a aussi la question du genre qui vient se surajouter à ça. Hein. Être un homme, c'est être fort, donc on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir de la préparation mentale. En France, on a vraiment besoin d'évoluer là-dessus, que ce soit dans le parasport ou dans le sport en général.
Tout à fait. Juste pour une petite précision là-dessus, c'est exactement ce que vient de dire Rémi, mais avec peut-être un petit complément, c'est que souvent, ils associent aussi la préparation mentale aux problèmes mentaux, en fait, et donc aux troubles mentaux. Et voilà, il y a beaucoup de préparateurs mentaux donc qu'on a pu rencontrer aussi, qui nous disaient il y a un problème de définition de ce qu'est la préparation mentale aussi, aujourd'hui aussi en France. On a besoin de clarifier ce que c'est, et comme c'est une discipline qui n'est pas professionnalisée encore complètement, ça pose le problème aussi de la définition de ce que c'est. Et donc effectivement, il y a ce problème de on ne sait pas trop ce que c'est finalement, et donc du coup on associe ça aux troubles mentaux, et donc on n'a pas envie finalement d'y aller, parce qu'on se dit si on y va, c'est qu'on va être associé à quelqu'un qui a des troubles mentaux, donc on n'a pas envie. Voilà, il y a aussi ça qui est comme obstacle.
Alors, quand on parle de performance, on envisage forcément aussi le risque de blessure. Dans votre rapport, il y a le témoignage d'un ou d'une athlète qui dit que suite à une blessure, elle a été prise en charge comme un citoyen lambda, finalement, et qui se plaignait de ne pas avoir une prise en charge spécifique. Est-ce que c'est le cas? Et pourquoi, dans ce cas-là, la prise en charge des parasportifs en cas de blessure n'est pas suffisante? Rémi Richard.
Alors, effectivement, ça c'est c'est difficile de généraliser. Donc effectivement, on est dans du qualitatif. On a montré qu'il y avait un cas particulier. Normalement, les parasportifs ont un suivi médical obligatoire, institutionnalisé. Et justement, le travail du droit aussi, un des axes du travail du droit, c'est de mieux comprendre comment il peut être mieux installé juridiquement ce suivi médical obligatoire. Mais effectivement, la question de la blessure, c'est un enjeu important. Dans le parasport, on a montré avec l'enquête quantitative qu'il y avait plusieurs, on avait fait plusieurs corrélations. On a montré par exemple que le risque de blessure était augmenté par un temps de préparation important et un temps d'accès aux environnements importants. Il y a aussi un élément qui est significatif, c'est la présence, s'entraîner dans un environnement mixte. Alors j'entends mixte entre guillemets, valide et handi, ou des environnements non mixtes. Mais c'est toujours compliqué on voit qu'il y a une corrélation, mais mettre en place des liens de...
Mais une corrélation dans quel sens? C'est-à-dire que ce que vous avez observé, c'est que les parasportifs qui s'entraînent avec des valides, avec les guillemets, ont plus de risques de blessures?
Voilà, c'est ce qui a été mis en avant d'un point de vue quantitatif, c'est qu'effectivement ça augmentait le risque de blessure. C'est difficile à interpréter. On pourrait dire peut-être que être dans un environnement non mixte, c'est moins adapté. Peut-être que le staff est peut-être moins formé à la question du handicap. Peut-être que ça amène les sportifs à plus surcompenser, c'est-à-dire à se dépasser, entre guillemets, mais avec un risque de blessure accrue. C'est difficile.
Et Yann Beltam, vous parliez de la question de la concurrence sur ce thème-là. Ça intervient aussi sur...
Alors, sur la blessure?
Oui.
Alors, pas nécessairement, mais par contre, pour en complément à ce que vient de dire Rémi, sur on parlait des disponibilités tout à l'heure, disponibilité spatiale, le fait d'accéder rapidement aux installations sportives, de se rendre à l'entraînement, ça aussi, ça peut avoir un lien avec les blessures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sportifs qui doivent prendre de nombreux transports en commun avant de se rendre à leur entraînement. Et c'est une charge mentale et physique parfois pour certains, et ça peut contribuer aussi. Ils arrivent sur des lieux d'entraînement déjà fatigués, déjà par les trajets qu'ils ont pu réaliser. Donc là aussi, les progrès qui sont à faire en termes d'accessibilité dans les transports, etc., partout sur le territoire, ont un impact. Là, pour le coup, on pourrait dire même sur de façon, enfin, si on regarde les choses clairement, sur les blessures de ces parasportifs.
Alors, il nous reste très peu de temps. L'émission file vite. Est-ce qu'on peut dire un mot? Vous avez travaillé sur les relations avec les entraîneurs, également avec les assistants et les guides. Donc, beaucoup d'entre nous ont découvert pendant ces JO. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation avec les entraîneurs? Donc, déjà, il y a des entraîneurs personnels, des entraîneurs nationaux, des concurrences entre les deux parfois. Rémi Richard.
Oui, alors les configurations elles sont très complexes. C'est pas la même chose hein, les entraîneurs, les guides, les pilotes, les assistants, c'est très complexe. Ça pose des questions juridiques et encore une fois le droit est là pour mieux définir ce que c'est que les assistants, les guides, les pilotes parce que à certains niveaux il y a des vides juridiques. Donc pour savoir qui fait quoi et qui est reconnu en quoi. Et ensuite effectivement au niveau des entraîneurs, on peut avoir son entraîneur personnel, celui qu'on a au quotidien. Il peut y avoir des entraîneurs nationaux qui sont spécifiques à la discipline dans la fédération. Donc il y a beaucoup d'interactions. Ce qu'on constate, c'est que les configurations, elles fonctionnent bien quand il y a du dialogue, quand les sociabilités se font. Parfois, les rôles se confondent. Là-dessus, je peux peut-être laisser Yann.
Vous parlez même de parfois, les entraîneurs sont des membres de la famille.
Oui, alors, effectivement, il y a l'un des facteurs, des grands déterminants, on l'a appelé sociabilité. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, elles ont un impact notoire sur les performances et sur ces configurations, puisque voilà, quand il y a des relations de bienveillance, d'entraide, où il y a une compréhension réciproque entre le sportif et ses entraîneurs, ça se passe bien. Alors, ce qu'on a montré là pour le coup, c'est que il y a parfois des amitiés profondes qui se créent, durables entre certains parasportifs qui performent depuis de nombreux jeux, qui ont eu des médailles d'or plusieurs fois au cours de leur carrière et qui ont gardé leur entraîneur personnel. Je dis bien parce qu'il y a des entraîneurs personnels et il y a des entraîneurs nationaux, ce qui est un peu différent. Effectivement, et alors pour parler de concurrence tout à l'heure, mais justement la tendance actuelle, c'est de reconnaître de plus en plus le rôle de ces entraîneurs personnels et leur expertise. On parlait de l'expertise, le deuxième grand déterminant, parce que souvent ils sont experts bien sûr des sports, bien sûr de beaucoup de des gestes sportifs, etc., mais ils sont experts de leurs propres sportifs, c'est-à-dire ils les connaissent très bien parce qu'ils les suivent au quotidien. Et donc de plus en plus on voit des entraîneurs nationaux qui intègrent les entraîneurs personnels lors des stages nationaux qui peuvent se faire régulièrement, parce que ils les connaissent bien, ils ont des réunions, ils se rencontrent, etc. Donc ça, c'est une petite nouveauté aussi qui a été mise en place pour les Jeux de Paris, dans certaines configurations, pas partout, mais dans certaines. Et donc, effectivement, c'est très important. On a identifié, effectivement, quand je vous disais, les quotidiens sont personnels, sont intenses entre les sportifs et l'entraîneur. Les entraîneurs, ça se passe bien et ça produit de la performance en général. Mais il peut y avoir aussi des cas, et ça nous est arrivé, où il y a parfois aussi ces relations personnelles qui peuvent bifurquer, se transformer en relations d'emprise aussi. Ça peut arriver. Et donc là, dans ce cas, évidemment, c'est nocif, c'est pas bon pour la performance. Donc, on invite. C'est pour ça que dans ce rapport, quand on a parlé de ce grand déterminant, on a invité qui étaient à destination des entraîneurs et des membres des staffs nationaux. On les a invités à bien observer ces relations, à porter un œil là-dessus. En fait, ce rapport et ces sociologiques, il invite à décentrer le regard de ces entraîneurs pour pouvoir améliorer les conditions de préparation.
Et ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, je vous coupe, mais on arrive au bout. Un grand merci à tous les deux. On mettra le lien donc de tous les articles dont vous nous avez parlé, oui, des rapports, du volet
et si je peux me permettre, on parlait des assistants et des guides. On a également rédigé un article qui est paru dans Voltaire sur cette question-là, sur la question du care, en fait, du sport et du care, on l'a appelé. Voilà.
Donc, alors n'hésitez pas à aller consulter la page de Divergence et la page de l'Université de Montpellier, vous trouverez tous les liens. Un grand merci et revenez quand vous voulez dans Allume la Science.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et comme je vous le disais, nous vous emmenons cette semaine au pôle Chimie Ballard où, Aline, tu as rencontré Lorenzo Stiviano.
Et oui, j'ai rencontré Lorenzo Stiviano car de votre montre à votre voiture en passant par votre téléphone, les batteries sont partout. À l'ICGM, l'Institut Charles Guérard de Montpellier, il existe une salle spéciale où on les teste dans toutes les conditions. Et c'est Lorenzo Stiviano qui nous fait la visite.
C'est dans notre salle de test dans laquelle on peut tester les batteries qu'on produit en fait, au cours de nos activités de recherche, mais aussi de batteries qui viennent de l'extérieur. Donc en fait, dans cette salle de test, comme je disais, on doit tester les batteries et pour tester ces batteries, on a besoin de les brancher. Et pour les brancher, du coup, on a besoin d'un minima de 3 fils qu'on va connecter aux électrodes de la batterie, donc deux, une à l'électrode positive et l'autre à l'électrode négative. Et la troisième nous sert comme mesure de référence. Donc souvent, on la branche à une des deux électrodes, ou parfois, on a des piles dans lesquelles on a un vrai électrode en plus, qui s'appelle l'électrode de référence. En fait, on peut vérifier un nombre assez important de choses. Donc on peut aller de tests assez simples. Donc par exemple, on synthétise un nouveau matériau à mettre dans des batteries, et on peut être intéressé à voir quels sont potentiel de fonctionnement et sa capacité, puisque en fait potentiel et capacité ensemble nous permet de mesurer l'énergie qui stocke en fait ce matériau. Et dans ce cas-là, du coup, on peut envoyer des courants pour un certain temps et mesurer effectivement combien d'énergie, combien d'électricité en fait on peut stocker à l'intérieur. Donc ça se fait, c'est la technique la plus simple qu'on peut utiliser, mais on peut aussi en fait aller mesurer des choses plus fines. Par exemple, les valeurs de résistance interne, donc c'est qui nous permet de voir si on dissipe beaucoup d'énergie quand on utilise la batterie, et du coup, en fait, avoir une idée de quelle est l'efficacité à niveau énergétique en fait, de notre matériau de batterie. Donc on est intéressé à quelque chose avec des faibles résistances internes. On peut aussi mesurer une batterie pendant un nombre énorme de cycles. Par exemple, on peut la faire cycler et voir comment elle résiste en fait, à l'usure en fait, au fur et à mesure des cycles dans une batterie. On peut utiliser aussi d'autres techniques analytiques qui nous permettent de suivre différents phénomènes. Par exemple, dans une batterie, on peut avoir un matériau qui subit différents processus chimiques, électrochimiques différents. Et en fait, on peut étudier de façon précise chacun de ces processus électrochimiques.
Alors, il y a un appareil qui m'intrigue. On dirait que ça ressemble à une paillasse hein, de chimie qui est sous verre. Et il y a des grands gants à l'envers, j'imagine, pour mettre les bras. Qu'est-ce que c'est que cette installation et à quoi ça sert?
Donc ça, c'est bien une boîte à gants. Donc dans la boîte à gants, on peut effectivement insérer nos mains. Donc en fait, il suffit d'enfiler les doigts à l'intérieur des gants. Et après, à pousser un tout petit peu. Et en fait, on rentre avec les mains à l'intérieur de la boîte à gants et on peut du coup manipuler à l'intérieur de cette boîte. Alors, pourquoi on a besoin de boîte à gants? Parce qu'une bonne partie de ces matériaux que nous mettons dans les batteries sont sensibles à l'oxygène et à l'humidité de l'air. Et du coup, on a besoin de travailler sous une atmosphère qui ne contient ni oxygène, ni humidité. Et en plus, par exemple, si on utilise du lithium métal, il est même sensible à l'azote qu'il y a dans l'air. Du coup, on est obligé vraiment de travailler sous des gaz très inertes. Donc, dans ce cas-là, c'est une boîte à gants qui est sous argon. Argon, c'est un composant de l'air, mais contenu en petite quantité. Et cela nous permet en fait, de travailler de façon sûre, sans abîmer les matériaux qu'on mettra dans les batteries. Et une fois qu'on ferme les batteries, on peut les sortir, puisqu'elles sont en fait étanches dans ce cas-là. Et du coup, elles ne subissent pas les problèmes de contact avec ces agents réactifs.
Avec un petit frigo à côté.
Alors, non, ce n'est pas un frigo, c'est une étuve. Alors, pourquoi on utilise une étuve? Parce qu'on peut aller étudier des batteries. Donc là, on se met la main dedans, il y a 70 degrés en ce moment. Et on peut mesurer en fait ce qui se passe dans une batterie si on la soumet à des températures élevées. Et normalement, dans des températures élevées, les batteries au lithium, par exemple, subissent un vieillissement qui est accéléré par rapport au fonctionnement à température ambiante. Donc en fait, on peut simuler des vieillissements accélérés et voir le temps de vie d'un matériau dans une batterie. Il faut savoir aussi que les batteries, par exemple, si vous avez votre téléphone portable sous la main, parfois, il chauffe. Donc, la batterie ne fonctionne pas vraiment à température ambiante, mais elle fonctionne à température un peu plus élevée, ce qui l'abîme un tout petit peu. Donc, ça nous permet de voir comment un matériau de batterie, en fait, supporte, par exemple, une température. On peut chauffer bien sûr bien plus haut que... Là on est à 70 degrés, mais on peut chauffer bien plus haut que 70 degrés.
Et à l'inverse, est-ce qu'on étudie dans des conditions très froides le fonctionnement des batteries?
Ouais, il y a aussi des enceintes climatisées qui permettent de mesurer le fonctionnement de batterie à basse température. Vous pouvez imaginer que si vous avez une voiture et vous démarrez à, je sais pas, à Norvège en hiver en voiture électrique, bah, vous avez un problème puisqu'il fait froid. Et les batteries n'aiment pas non plus le froid, donc elles marchent bien à température ambiante, mais même dans le froid, en fait, elles ne s'abîment pas, mais elles risquent d'avoir des processus qui sont ralentis, et du coup, bah, on récupère un peu moins bien l'énergie en fait, qui est stockée dedans. Ces systèmes-là nous permettent, on vient de les acheter dans le cadre d'un projet européen auquel on participe, et cela nous permet de tester de vraies batteries de voitures, c'est-à-dire on peut amener un pack de batteries de voitures, et de, comme vous avez vu, les systèmes qu'on a ici, ça permet d'étudier de petites batteries. Mais là, on peut aller étudier des grosses batteries et du coup simuler effectivement le comportement d'un pack de batteries commercial, chose qu'on ne pouvait pas faire dans cette salle jusque-là.
Merci Aline. Avant de vous laisser, une petite annonce. Jeudi soir, Planète Océan reçoit Éric Serva, directeur du centre UNESCO Ice Reward Montpellier, directeur de recherche à l'IRD. Il donnera une conférence sur la crise de l'eau, enjeux mondiaux et défis locaux. Cet événement est organisé par l'Observatoire de recherche montpelliérain de l'environnement, l'OREM, et c'est à 19h30. Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.